Et c'est tout de suite l'heure de vous retrouver. On est ravis, bonsoir à toutes et à tous. Par les temps qui courent, écoute les artistes pendant une heure, tous les soirs. Et ce soir, on est ravis de recevoir Valérie Zenati.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te mettre.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Le 4 janvier 2018, l'écrivain Aaron Appelfeld meurt. Depuis votre rencontre et la traduction de beaucoup de ses livres, de l'hébreu vers le français, vous aviez pris l'habitude, Valérie Zenati, de vous téléphoner pour vous présenter vos vœux mutuels et prendre des nouvelles. Quelques jours avant l'annonce de cette mort, et tel que vous le racontez dans votre dernier livre, vous ne saviez pas exactement quoi attendre de l'année qui commençait. Une plus profonde perception des êtres, peut-être, et il s'imposait à vous une manière de ne pas chercher à comprendre, observer plutôt, regarder les effets de différents mystères sur nos existences. Celui de la musique, celui des rencontres avec les humains, avec les textes. Votre texte à vous, écrit avec lui, dans les mois qui suivent, dit l'étrange acuité dans laquelle nous plongent certaines morts qui vitalisent les vivants, les obligent, les invitent, les éveillent. Et l'appel du silence qui n'empêche ni l'écriture, ni la traduction. Bonsoir à vous, Valérie Zenati.
Bonsoir Marie Richeux.
Dans le faisceau des vivants paraît en cette rentrée littéraire de janvier, et ceci aux éditions de l'Olivier. Soyez la bienvenue, janvier, plus ce début de texte où vous rappelez votre tradition des vœux avec Aaron Appelfeld. Est-ce que vous en avez pour 2019 des vœux? Pour vous, des vœux pour nous, pour ceux qui nous écoutent, pour le monde?
Oui, peut-être, je sais pas, des vœux d'une année sensible, d'une année où on pourrait écouter notre sensibilité et penser à partir à travers elle et à partir d'elle.
C'est-à-dire peut-être une sensibilité du corps, les sens dans ce sens-là ou...
Oui, du corps, des sens, des mots. Parce qu'il me semble que pendant assez longtemps, on nous donne le sentiment qu'il y a d'un côté les émotions et de l'autre la pensée. Je crois que c'est Hannah Arendt qui liait les deux et elle n'est pas la seule. Je crois profondément que si on est à l'écoute des mouvements émotifs qui nous traversent, ça peut nous permettre de penser au-delà, de penser le monde. Enfin, de penser le monde. C'est vaste de penser le monde et c'est peut-être même prétentieux de le dire, mais de penser peut-être nos relations au monde qui nous entoure, ça oui. Parce que vous aviez une émission à une époque qui s'appelait « Pas la peine de crier », et si je me souviens bien, et j'aimais beaucoup ce titre, j'aime aussi beaucoup le titre de votre émission aujourd'hui, mais j'aimais beaucoup ce titre parce que il invitait justement à tendre l'oreille au chuchotement, au murmure et à toutes ces sonorités très fines qui sont celles souvent des émotions, qui pour moi permettent d'appréhender à la fois les relations aux autres et dans l'intimité et peut-être de manière plus générale dans le social.
Mais c'est étonnant que vous citiez des titres d'émissions de radio parce que il y a beaucoup de références à la question de l'écoute des voix, du silence évidemment dans ce texte-là, comme si c'était presque un texte entendu, quoi.
Oui, je crois que c'est de cet ordre-là. Alors, il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai été invitée à New York par le philosophe François Nudelman pour dialoguer avec lui. Et il m'a dit qu'il était en train d'écrire un livre qui va bientôt paraître et que j'attends avec beaucoup d'impatience et qui s'appelle « Penser avec les oreilles ». Sur justement, je crois, puisque je n'ai pas encore lu le livre, cette matière auditive intérieure qui est en nous. Et qui est sans doute ce qui nous relie au livre, pas uniquement au livre, mais à la conscience aussi, ces voix intérieures, toute cette sonorité qui résonne dans le silence, dont on prend conscience quand on est enfant et qu'on commence à lire, par exemple, et que moi, j'ai totalement redécouverte à l'occasion de la disparition d'Aaron Appelfeld dans ce silence.
Ben, on l'écoute.
Lomar, bisman amilchama kvar.
Oui, je l'ai déjà dit, pendant la guerre, j'ai appris à me taire. J'ai appris à écouter.
Et
ces sentiments-là me guident jusqu'à ce moment précis de ma vie, aujourd'hui. J'apprends toujours plus d'un mouvement d'un individu, mouvement des mains, mouvement des épaules, mouvement du visage. J'en apprends plus que ce qu'il pourrait dire en parlant ou en expliquant les choses. L'explication, si vous voulez, trompe un peu. Le mouvement est, si vous voulez, une explication pleine, est une parole forte.
Donc,
si je trouve le bon mouvement d'un individu, alors je comprends beaucoup plus de quoi il est question, beaucoup plus que s'il devait l'expliquer. La littérature, en général, aime les mots. Et moi, je me méfie des mots.
Less is more.
Je dis toujours « less is more ». Moins, c'est plus, en anglais. Et j'aime le silence entre les mots, entre les phrases. Parce que le non dit est plus important que ce qui est dit. Vous savez, si je pouvais écrire un mot qui ne serait que silence, je le ferais, je l'écrirais.
Lorsque je suis dans le studio d'une radio et que l'on me demande « Comment avez-vous rencontré Aaron Appelfeld ?» il y a toujours un blanc dans ma tête. Je réponds « C'est difficile de prendre la parole après quelqu'un qui accordait tant d'importance aux mots et qui vient tout juste de se taire. Et je sens que le problème est là. Impossible à résoudre pour l'heure. J'ai conscience d'être en train de vivre une expérience qui suscite en moi un désir de silence inédit et une excitation inavouable. » Je m'enferme dans ma chambre, dispose autour de moi les livres que j'ai traduits, ceux qui attendent de l'être, dédicacés avec amour, les feuilles sur lesquelles je prenais des notes lorsque nous étions ensemble sur une scène de festival ou dans un studio de radio. Je veux moi aussi passer par tous les lieux où nous avons été. Je retraduis tout, je retrouve le souffle, le rythme, les intonations, le sourire au milieu d'une phrase. Mes oreilles se tendent et s'affûtent. J'entends la voix qui s'est tue de manière plus distincte que si j'en écoutais un enregistrement. Elle prend corps de nouveau en moi. Je m'immobilise, essaie de comprendre. Où cela se passe-t-il exactement? Quel est le prodige qui la rend si claire et audible?
Valérie Zenati, on entend un extrait de votre texte « Dans le faisceau des vivants » lu par Romain de Bec-de-Lièvre et juste avant cela, la voix d'Aaron Appelfeld dans l'émission Bibliothèque étrangère au micro de Francesca Isidori diffusée sur France Culture. Et les deux se répondent. Et les deux se répondent dans le chant du silence. Et je trouve intéressant la manière dont ce texte commence, alors évidemment avec la peine, évidemment avec la surprise de la perte, la douleur.
Oui, la sidération.
La sidération.
Oui.
Et assez rapidement, le constat que vous êtes devant, vous-même, une expérience à vivre dans votre corps qui commence par le fait que vous désirez vous taire. C'est pas forcément que vous ne pouvez pas parler, c'est que vous désirez vous taire.
Oui, oui, depuis quelques années, j'ai publié plusieurs livres et j'ai souvent dit que j'écrivais sur ce qui me laissait sans voix. Et si j'étais capable de tout raconter, je n'écrirais pas parce que ça va beaucoup plus vite de raconter une histoire et puis on peut sortir de chez soi et vivre et faire autre chose. Et quelques livres se sont imposés à moi jusqu'à présent parce que j'ai vécu différents moments où un événement, demander à prendre corps dans un livre, pas forcément un événement autobiographique, mais une idée ou quand j'ai écrit Une bouteille dans la mer de Gaza, c'est un attentat qui a fait qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour moi que de me taire et d'essayer de comprendre ce qui résonnait en moi à travers cet attentat-là. Et avec la mort d'Aaron Appelfeld, j'ai été placée devant... Oui, j'ai désiré être sans voix, mais je crois que je l'étais vraiment aussi parce que de ma vie, je n'avais fait l'expérience d'une aussi grande sensibilité à ma propre voix et peut-être même d'une... Je ne sais pas si c'était une exaspération, mais j'avais une grande difficulté à entendre ce que je pouvais dire parce que dès que je prononçais une phrase sur Aaron Appelfeld, j'avais le sentiment que je me trompais, que je n'étais pas suffisamment précise, que c'était trop réducteur et je n'aimais pas ça. Donc j'ai tendu l'oreille. Très vite, j'ai découvert que le silence qui m'habitait était d'une qualité que je n'avais jamais éprouvée. Et pour moi, à ce moment-là, peut-être qu'au-delà du chagrin ou de ce qu'on appelle le deuil, j'ai vécu dans la liberté la plus extraordinaire qui soit et que je souhaite peut-être à chacun. C'était celle de pouvoir laisser les jours s'écouler en étant simplement à l'écoute de ce qui se passait. Et ce qui se passait, c'était beaucoup de choses, puisque ça vient d'être magnifiquement lu. J'avais à ma disposition tous les outils nécessaires pour entendre cette voix.
Et d'ailleurs, dans ce qui vient d'être lu, il y a l'idée du désir inavouable et qui dit bien que tout ce qu'on a décrit de la douleur, du chagrin, de la perte n'empêche pas une forme de vitalité ou de vivacité qui, à mon sens, vraiment tient tout ce texte. C'est-à-dire que Aaron Appelfeld qui dit « il faut regarder le mouvement des êtres », c'est un texte qui ne cesse de dire combien vous êtes en mouvement.
Oui, mais merci de le lire ainsi. Je crois qu'en effet, c'est très difficilement avouable. Le fait qu'il puisse y avoir une forme d'excitation à la mort de quelqu'un. Je pense que ça peut être mal entendu et mal interprété. Mais pour moi, il y avait peut-être ce vertige qui peut s'emparer de nous lorsqu'enfant, on imagine notre propre mort et ce qui se passerait après notre mort. Et pour moi, pour des raisons certainement d'identification, justement, de voix et de sensibilité, d'identification profonde à Aaron Appelfeld, j'ai eu l'impression que je vivais un peu cet après la mort. Alors, c'était pas après la mienne, mais je vivais l'après mort d'Aaron Appelfeld. Et ça m'ouvrait une perception qui était évidemment qui dépassait les catégories de joie, de peine, de beauté, tout est devenu autour de en moi et autour de moi très très transparent et voilà je sentais que je vivais quelque chose qui me dépassait, qui était une expérience du moment. Moi je n'ai jamais écrit à chaud. J'ai écrit certains livres qui puisaient dans des moments autobiographiques, mais réécrit bien plus tard. Et là, au contraire, il fallait que ce soit une écriture de l'instant. Parce que tout de suite, il m'est apparu que ce que je vivais avait profondément à voir avec la vie, avec la liberté et aussi avec les mots. Que les mots étaient mis à l'épreuve et cette mise à l'épreuve devait être dans ce moment-là. Comme une sorte de, je sais pas, comme si les mots étaient trempés tout à coup dans une température ou un matériau qui les redéfinissait.
Et que, bien entendu, cela vous dépassait. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que, en effet, vous dites que ça avait à voir avec la vie. Et en fait, pas que avec la vie d'Aaron Appelfeld et la vie de Valérie Zenatsi. Vous décrivez d'ailleurs des nuits blanches, ou une nuit blanche en particulier, où ce qui se passe, c'est la conscience d'être en vie, mais sans nom, sans géographie, sans temporalité, sans époque, sans date, sans prénom, presque sans corps, pas exactement, mais presque sans corps, comme si le sursaut dont il était question au moment de la mort d'Aaron Appelfeld était un rappel ou un rapatriement aux cellules vivantes, mais de manière presque, ouais, je sais pas, scientifique, physique, quoi.
Probablement. Mais tout cela, tout à l'heure, au début d'émission, je parlais de la possibilité d'unir le sensible et la pensée. Moi, lorsque j'écris, je ne pense pas, et en tout cas pas de manière consciente. Donc j'essaie de capter cette matière sensible. Et puis ensuite, dans un second temps, et là, je ne peux pas ne pas remercier mes éditeurs, Laurence Renouf et Olivier Cohen, qui m'ont accompagnée à la fois dans ce moment où, je ne livrais rien de ce que j'écrivais, mais ils étaient là et ils m'ont permis aussi de, pouvoir vivre ce moment sans me préoccuper de, d'autres choses. Puis ensuite, ils m'ont accompagnée lorsque j'ai poli ce texte, parce que je, j'ai extrait cette matière au moment de la mort d'Aaron Appelfeld, et puis ensuite il a fallu la polir, et ils ont été là. Et pour, je parle d'eux parce que je crois que dans un premier temps, je n'ai pas du tout pensé ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'il y avait un rappel à la vie qui se crée de manière organique. Je l'ai éprouvé, et puis ensuite je pense que je l'ai un petit peu pensé pour pouvoir l'écrire. Et tout ça n'est pas très finalement très surprenant, parce qu'Aaron Appelfeld avait fait de la vie et de la mort, et de cette polarité entre la vie et la mort, la matière de toute son existence et de son œuvre. Et si on pense que j'ai traduit à peu près 3000 pages d'Aaron Appelfeld à ce jour, et traduit des dizaines d'entretiens ou d'heures d'entretien avec lui, tous ces mots et cette voix merveilleuse qu'on a entendue là se sont déposés en moi. Et ils ont pris vie autrement, puisque lui était mort, mais ses mots et toute la résonance qu'il y avait dans ses mots sur cette tension extraordinaire entre le moment où on entre dans l'existence et le moment où on en sort, tout cela était bien vivant en moi et peut-être encore plus vivant après sa mort.
Alors, pour parler justement de cette archive qu'on vient d'entendre, Valérie Zanatti, où Aaron Appelfeld parle beaucoup du silence, mais on entend bien que c'est un silence qui n'empêche ni les mots, ni l'écriture. Alors, de quel ordre était-il celui qui s'imposait à vous et qui presque, en fait, a initié l'écriture de ce texte-là?
Je crois que c'était un silence qui était d'une richesse extraordinaire, parce que c'était à la fois le silence de la lecture, tout simplement, qu'on connaît, qu'on est nombreux à connaître, ce silence qui est très nourri de la lecture, puisque je pouvais lire et relire Aaron Appelfeld. C'était le silence de l'écriture, que je connais en tant qu'écrivain et que j'éprouve. C'était le silence de la traduction, qui est un silence encore plus mystérieux que tous les autres, parce que le silence de la traduction, c'est un endroit où les mots se transforme d'une langue à l'autre. Et moi, je dis toujours que vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose qui pourrait presque être scientifique dans ce silence-là. Moi, je rêve de rencontrer le scientifique qui parviendra à isoler le moment où les mots basculent d'une langue à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? À quel endroit ça se passe? Moi, je sais que je le vis. Ce moment-là où les mots ne sont plus ni tout à fait de l'hébreu, ni tout à fait du français. Et c'était ce silence-là aussi. C'était aussi, je crois, mes silences d'enfance, parce que Aaron Appelfeld a puisé évidemment dans ses silences d'enfance pour écrire, et ils ont indubitablement rencontré les miens. Et je crois que Aaron Appelfeld m'a transmis plusieurs mots qui étaient ses mots fétiches, et silence, contemplation, étonnement, et je les ai réinterpréter. Mais celui de silence, j'ai mis du temps à le comprendre, parce que moi, au contraire, je dis souvent que je suis arrivée en littérature avec un amour des mots très très grand et une grande confiance.
Et lui, il dit qu'il se méfie.
Et lui s'en méfiait, totalement. Donc, au début, il y avait ce hiatus presque dans nos attitudes très différentes à l'égard du langage. Moi, j'aimais les mots, mais depuis toute petite, j'avais le sentiment que c'était des petits trésors, qu'on pouvait mettre bout à bout, et le monde s'éclairait à travers les mots. Et donc, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il disait quand il disait que l'expression la plus profonde était le silence. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des vœux du mois de janvier. Dans le livre, je dis bien que depuis janvier 2015, il y a quelque chose d'un petit peu délicat à souhaiter une bonne année, parce qu'on se souvient tous que le 7 janvier 2015, avec l'assassinat de la rédaction, d'une grande partie de la rédaction de Charlie Hebdo, les vœux se sont comme explosés ou fracassés sur la réalité du monde. Et en vous écoutant parler du silence, je me suis souvenu qu'à ce moment-là, il y avait eu donc une minute de silence qui avait été réclamée. Et on avait fait part de plusieurs incidents dans les écoles sur des enfants ou des adolescents qui ne voulaient pas faire cette minute de silence. Et je me souviens avoir pensé à l'époque qu'on aurait dû réfléchir au mot silence avec les enfants avant de leur imposer une minute de silence. Parce que là, c'était comme si on leur disait, il faut vous taire, vous n'avez pas le droit de parler. Or, si on avait simplement dit, attention, le silence, c'est aussi être à l'écoute de ce qui se passe en soi. Et chacun a le droit, à l'intérieur de ce silence, de penser ce qu'il veut, de ressentir ce qu'il veut. Le silence, c'est pas forcément faire taire les gens. Et je crois que si j'ai pu penser ce silence-là et puis en discuter avec des jeunes, parce que je rencontre beaucoup de jeunes, j'ai cette chance-là dans les lycées, si j'ai pu discuter du silence de cette manière, c'est parce qu'Aaron Appelfeld m'a appris à l'écouter.
L'autre mot dont vous dites qu'il a été transmis depuis lui jusqu'à vous, c'est l'idée de la contemplation. Et il me semble que c'est très important de parler des quelques pages qui précèdent l'annonce de sa mort, où on est à la toute fin du mois de décembre. On est dans la musique. Et vous écrivez que peut-être vous ne savez pas quoi attendre, et on sent que sourd une certaine inquiétude, vous faites mention. Mais vous parlez aussi d'un mystère, qui est un mystère qui revient, mais de manière très très discrète au cours du livre et qui n'est jamais dévoilé, et qui dit la position dans laquelle vous êtes vis-à-vis de l'existence à ce moment-là où la mort d'Aaron Appelfeld vous attrape, qui est une position où vous acceptez de contempler ce que ce mystère, une rencontre, de la musique, un texte, on ne sait pas, vous agit. Comment il agit à la fois sur vous et comment même il vous fait presque agir. Et je trouve que c'est important que le texte ne commence pas à la mort d'Aaron Appelfeld. Et qui est ce début qui nous dit quelque chose, qui veut nous dire quelque chose. Qui veut nous dire quoi, Valérie Zenati?
Alors, je reprendrai ce que disait Aaron Appelfeld dans l'extrait que vous avez diffusé. Les non-dits sont certainement encore plus importants que ce qui est dit. Et les non-dits ne sont pas là pour pour dire ah je vous cache des choses et puis peut-être qu'un jour je vous les révélerai et c'est plus parce qu'il y a je crois des mystères qui restent des sources très très grandes et qui seraient extrêmement appauvries si on les dévoilait. Donc encore une fois, c'est pas pour en faire mystère, ce n'est pas un calcul. C'est simplement la conscience qu'il y a certaines choses, certaines rencontres, par exemple. En l'occurrence, là, oui, il s'agit aussi d'une rencontre et aussi de la musique. Je suis retournée à la musique quelques mois avant la mort d'Aaron Appelfeld, plus d'un an, on va dire même, à peu près un an avant sa mort. Je me suis retrouvée sans voix, ça je peux le dire, c'était à la suite de l'attentat qui a eu lieu à Nice. Et je suis née à Nice, j'ai grandi à quelques mètres de la promenade des Anglais, et l'attentat qui a eu lieu le 14 juillet a été une sorte de dévastation de mon enfance rétrospectivement. Et je me souviens très très bien, à cette époque, plusieurs journalistes avaient fait appel à moi pour réagir à cet attentat. Et j'avais été dans l'incapacité totale d'écrire quoi que ce soit, et puis d'écrire tout court, et je m'étais remise au violon. Et j'en avais parlé avec Aaron, d'ailleurs, je lui avais dit, mais tu sais, je joue 5-6 heures par jour, je n'arrive plus à écrire. Il m'avait dit, mais tu es sans doute en train de chercher la musique de ton prochain livre. Et puis mon prochain livre, ça a été le livre, ce livre-là, ce que j'ignorais, ce qu'il ignorait aussi. Mais pour revenir à votre question, la question du mystère qu'il y a dans mon rapport à la musique et à une rencontre que j'ai faite avant la mort d'Aaron Appelfeld et qui a bouleversé aussi ma perception de l'existence, je crois que ça signifie tout simplement que j'ai de la chance, que j'ai une chance inouïe de pouvoir, à mon âge, bientôt un demi-siècle, me retrouver dans des situations où la surprise est totale et où j'ai les moyens d'accueillir cette surprise. Parce que les surprises sont là lorsqu'on est enfant, à chaque seconde, et on n'a pas les moyens de l'exprimer. Et puis là, j'ai atteint l'âge où je peux les saisir dans le silence et dans les mots. Et j'étais effectivement dans cette perception-là avant la mort d'Aaron Appelfeld.
Et le reste du texte ne fait qu'encourager ce mystère. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir lu ces quelques pages avant que de plonger avec vous dans ce qu'enclenche la mort d'Aaron Appelfeld. C'est que ensuite, tout le récit, à la fois de sa perte, son absence, mais aussi de sa présence, de votre rencontre, de vos échanges, etc., ne fait que dire à cette chance de la surprise, à cette chance de la rencontre, ouvre-toi.
Oui, exactement. Tout à fait. Tout à fait. C'est, je crois que j'ai été portée par plusieurs choses à ce moment précis. Et que ça revivifiait mon rapport aux mots et à ce que les mots contiennent. Et aussi, je parlais de liberté. Tout cela, à la fois la perte et ce que je recevais de la vie, à travers la musique, à travers la rencontre, à travers les mots qui me portaient d'une manière nouvelle, tout cela m'a donné la liberté extraordinaire que j'ai ressentie lorsque j'ai pu dire « je veux aller à Tchernovitz », par exemple. C'est une phrase que je ne m'attendais pas à prononcer un jour, ni même à mettre en action. Et quand vous parlez d'ouverture ou d'agir, voilà, ce qui agit en nous, il y a eu oui, ce moment extraordinaire où j'ai senti que j'avais la liberté d'aller où je voulais. Et là où je voulais être, c'était Tchernovitz.
Qui est la ville de naissance d'Aaron Appelfeld, qui est presque le deuxième mouvement, si on pense en musique, de ce texte-là. Mais on va continuer de parler de rencontres.
Dans ce texte, je crois que j'avais essayé de rendre le trouble de la rencontre, simplement la rencontre, sans qu'il y ait aucune arrière-pensée, mais simplement cette espèce de contact, de face-à-face, deux êtres qui se regardent, chacun étant déjà un mystère à lui-même, l'autre étant aussi un mystère à nos propres yeux, et voilà, deux mystères qui sont face à face. Souvent, on peut être très proche d'un être, alors qu'il est absent, et même c'est peut-être là qu'on a avec lui les dialogues les plus nourris, les plus heureux, parce que, je ne sais pas, sa personnalité physique n'est pas là, on n'a plus de crainte, on ose parler à cœur ouvert, et ce sont peut-être les meilleurs moments, et donc ceux où l'absent est le plus proche et le plus présent. Mais bien sûr, on ne peut pas vivre que de ces moments-là, parce que sinon, ces moments de présence ne seraient plus vitalisés par de réelles rencontres. Parfois, j'ai toujours pensé que les productions de l'imaginaire pouvaient être une fuite. Et moi, j'ai toujours été porté à rencontrer, à affronter, à me poser face aux choses. La réalité, je ne l'ai jamais fui, même quand elle m'était douloureuse. Jamais, jamais.
Il y a une manière de se tenir face aux choses. Dans votre texte, Valérie Zanatti, on entendait ici Charles-Juliette au micro de Francesca Piolo, dont les entretiens à voix nue diffusés en 1994 sur France Culture, qui dit à la fois la rencontre comme un mystère à soi-même et en même temps un face-à-face. Et il y a plein de face-à-face dans ce texte.
Oui.
Il y a des face-à-face avec la mort, il y a des face-à-face avec Israël, il y a des face-à-face avec Aaron Appelfeld, il y a des face-à-face avec des textes, avec des vieilles dames à Tchernovitz. Et il y a par exemple une manière que vous avez de décrire son regard, où vous dites quand il était face à quelqu'un, il y avait un face-à-face inéluctable.
Oui, oui. Oui, et tandis que vous étiez en train de parler là maintenant, je me disais que ce qui s'était produit, c'était quelque chose qui me regardait. Et qui me regardait évidemment dans tous les sens du terme. Si j'ai eu besoin d'être dans l'espace, dans un premier temps dans l'espace clos de ma chambre pour écrire, et dans un second temps dans l'espace totalement ouvert de Tchernovitz, mais à l'abri des regards qui me connaissaient, c'est certainement pour saisir quelque chose de ce face-à-face. Et il y a aussi, je l'entends comme ça, un face-à-face aussi entre deux langues. C'est-à-dire que peut-être que ce qui finalement est le plus fort dans ces mois et dans cette expérience-là, c'est qu'elle contient peut-être toutes les expériences de la vie et qui sont celles de la rencontre, de la rencontre dans la perte et de la rencontre tout court, mais peut-être du tout premier moment, de celui de la naissance. Il y a quand même ce moment extraordinaire lorsqu'un enfant arrive au monde où c'est dans la séparation avec la mère que la rencontre peut avoir lieu. Moi, j'ai ce souvenir-là de l'arrivée de mes enfants. À un moment donné, je me disais, voilà, il faut se séparer pour se connaître.
Mais d'ailleurs, il y a mention dans ce texte-là, et c'est une mention qui reste en mémoire, le désir d'un deuxième enfant. Vous décrivez une nuit, vous décrivez une ville, et vous dites, ça a été possible de désirer un enfant, et je trouve ça pas non plus anodin que dans un texte sur une vie qui s'interrompt, arrive le rappel de ça. C'est pas très lourd, c'est trois mots, ou quelques mots dans une phrase, mais c'est présent.
Il se trouve que j'ai eu effectivement, je le réalise pleinement maintenant que vous le dites, mon deuxième enfant, ma fille, après mon garçon, au moment où j'ai découvert l'œuvre d'Aaron Appelfeld durant la préparation de l'agrégation d'hébreu. Et donc, il y avait cette vie qui poussait en moi. Et moi qui étudiais les textes d'Aaron Appelfeld et qui ignorais encore que j'allais bientôt les traduire. Mais ce désir poussait en moi parce que je faisais face, donc là, encore un autre face-à-face, à un texte, non pas encore un homme que je ne connaissais pas, mais un texte qui m'intriguait profondément.
Est-ce que vous sauriez dire, a posteriori, de quoi était faite, de quoi était tissée cette rencontre d'abord avec un texte? C'est-à-dire qu'une rencontre, c'est quelque chose qui nous arrête, qui fait que on laisse pas passer les choses, on s'arrête.
Oui, oui, on s'arrête.
Des livres, vous en avez lu beaucoup, des textes beaucoup. Peut-être pas autant en hébreu, mais ce que je veux dire, c'est que vous arrêtez là-dessus.
Oui, 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 c'est vrai. J'ai mis du temps et je mettrai encore du temps à comprendre ce qui s'est joué là. Ça me résiste. Moi, ce que j'aime profondément, je crois, dans cette relation avec Aaron Appelfeld, c'est d'abord elle échappe aussi aux mots, parce que je me suis aperçue qu'aucun mot ne pouvait qualifier ce qui nous unissait. Et je ne sais pas très bien ce que j'étais pour lui, ce qu'il était pour moi. Et il n'y a pas de mots, en tout cas, pour qualifier cela. Et pour qualifier le mystère de son écriture... Alors, il n'y a pas de mots, mais je peux dire que je pense que... Moi, je viens d'une famille juive plutôt croyante et relativement pratiquante, contrairement à Aaron Appelfeld. Et il y a peut-être quelque chose, un mystère inversé qui a été à la source de cet étonnement-là. C'est-à-dire que moi, j'ai été une petite fille qui croyait en Dieu. J'ai vraiment cru en Dieu jusqu'à un certain âge de l'adolescence. Et donc, mon enfance a été placée aussi sous le signe de la foi, que j'ai perdu ensuite. Et chez Aaron Appelfeld, c'est un peu l'inverse. Il vient d'une famille qui n'était pas croyante. La foi existait dans sa famille, mais plutôt au niveau des grands-parents. Et il n'a pas été un enfant croyant en Dieu. Il n'a pas été élevé dans cette foi-là, même s'il a reçu, notamment à travers les domestiques catholiques de la famille, il a reçu une perception peut-être et un ancrage dans ce que pouvait être la foi chrétienne.
Et vous évoquez ça d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Surtout lorsque je vais à Tchernovitz et lorsque j'entre dans les églises dans lesquelles il est probablement entré. Et je pense que ce rapport a une transcendance qui dépasse de loin le fait de croire ou de ne pas croire aujourd'hui. Mais une transcendance, un mystère, c'est quelque chose qui est sous-jacent dans toute son œuvre et qui m'a parlé parce que j'ai connu à la fois la foi et l'éloignement de la foi, ce mystère qui continue de me résister, même lorsque je pense qu'il n'y a peut-être pas de mystère. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est vraiment décidément un texte beaucoup autour de ça, de la question du mystère. Mais puisqu'on parlait de rencontre, Valérie Zenati, est-ce que vous avez la sensation qu'avec ce texte dans le faisceau des vivants, vous le rencontrez différemment, mais au sens vraiment fort du terme?
Oui. Je crois qu'avec ce texte, j'ai eu la chance de saisir très inconsciemment quelque chose qui m'échappait. Et ce quelque chose, c'est à la fois ce qu'on vient d'évoquer là, peut-être un mystère qu'on a ou pas, et peu importe d'ailleurs qu'on l'ait ou pas, le mystère est là, c'est ça que j'ai découvert. Et aussi, et ça Aaron Appelfeld le disait aussi, quand il disait que l'écriture est la prière de l'âme et de celui qui n'a peut-être pas la foi, pour moi, l'écriture est certainement un lieu où quelque chose de mystérieux continue d'exister. Et d'ailleurs, en hébreu, l'un des 70 noms de Dieu, c'est le lieu. Et pour moi, c'est Makom. Et pour moi, l'écriture est un lieu. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Valérie Zenati. I am here, right here, where God puts none asunder. And you, in black dress and black shoe, you do invite me under.
go on, go there, you can see me aging, stars turn, balls burn, coming kids are raging, death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Every terrible thing is a relief, even months on end, buried in grief, are easy lifetimes which have to end with the coming of your death friend. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Strap me on and raise me high, 'cause buddy, I'm not afraid to die. But life is long and it's tremendous, and we're glad that you're here with us. And since we know an end will come, it makes our living fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to me and death to you, tell me what else can we do, daddy? Death to all, death to each, our old God bottles within reach. Death to everyone is gonna come.
Quand j'ai ouvert les yeux, le train sifflait sur un pont qui enjambait une rivière, et je n'ai pas eu besoin de savoir où nous étions pour connaître son nom. Je me suis figé sur ma couchette. Le train s'est arrêté quelques centaines de mètres plus loin, dans un silence d'aube blanche. J'ai vu des gens s'éloigner sur le quai. Ils ressemblaient derrière la vitre à des personnages de films en Super 8. Je suis resté immobile sur ma couchette, coude sur les genoux, visage sur les poings, fixant les flocons qui tombaient, attendant peut-être que le train reparte avec moi seul à son bord. Un contrôleur m'a houspillé en ukrainien, que je ne comprends pas. Mais j'ai pourtant compris ce qu'il me disait. Le train était arrivé à son terminus. Qu'est-ce que je foutais là encore ? J'ai ramassé mes affaires à la hâte, saisi mon manteau, mon bonnet et mon écharpe d'une main fébrile, tiré ma petite valise de l'autre. Mon sac glissait sur mon épaule. J'ai traversé le train désert comme quelqu'un que l'on a réveillé brutalement, qui sait qu'il doit avancer, mais sans savoir très bien où. Mon visage reflétait sans doute une perplexité un peu stupide. Je me suis cogné plusieurs fois contre les parois du wagon. Je n'étais pas très chic, je pense, à la limite d'un hébétement suspect, mais qu'importe. Personne n'était là pour m'attendre. Me voir descendre du train et poser le pied sur le quai couvert d'une neige qui crissait sous mes après-ski. J'ai levé les yeux vers le panneau blanc, aux lettres cyrilliques bleues, qui se balançait au-dessus de ma tête. Il était 7h30. Le ciel déversait une lumière gris clair sur moi, qui venait de mettre le pied à Tchernivtsi. Oui, Tchernivtsi est le nom de Tchernovitz aujourd'hui, et je me suis dit, voilà, nous sommes le 16 février 2018, je suis venu à Tchernovitz pour l'anniversaire d'Aaron. Et le tremblement intérieur qui n'avait cessé depuis début janvier m'a quitté brusquement.
Valérie Zenati, Romain de Bec-de-Lièvre lit un extrait de votre texte dans le faisceau des vivants et on entre dans une sorte de deuxième moment de ce texte où vous prenez un train pour aller vers cette ville qu'il rappelait, paraît-il, à chaque début d'entretien. Je suis née en 1932 à Tchernovitz. Vous disiez tout à l'heure que vous vous êtes octroyé la liberté, voire qu'il était tout à fait possible d'aller là où vous vouliez, c'est-à-dire là-bas.
Oui. Oui, là aussi, on revient à la question du lieu. Il y a eu le lieu de l'écriture pendant quelques semaines qui était totalement vital pour moi. Et puis ensuite, il y a eu ce deuxième lieu physique, géographique. Je m'aperçois d'ailleurs qu'au fil du temps, il y a une drôle de géographie qui se dessine intérieurement. Mon livre précédent, lui, était aussi parti d'un lieu mythique pour moi. C'était Constantine, où est née ma mère, en Algérie. Et je me suis aperçue en allant à Tchernovitz que je contenais aussi ce lieu-là de manière totalement légendaire. Et c'était, je n'avais jamais pensé dans ma vie que j'irais un jour à Tchernovitz. Je n'avais pas besoin d'y aller pour traduire les livres d'Aaron. Et là, ce lieu s'est imposé à moi ce jour-là. Et ça a été une expérience extraordinaire aussi de pouvoir dire pour la première fois de ma vie, je veux être à tel endroit, à tel moment. Et il y a quelque chose là dans le désir de l'espace et du temps qui s'est rejoint, qui était extraordinaire. Et je sais pas, je crois que mon désir d'y être était si grand que j'aurais pu faire le chemin à pied pour aller là-bas. Et éprouver ce que pouvait être la rencontre avec ce lieu où Aaron a vu le jour.
Je ne sais pas si c'est un détail pour vous, Valérie Zenati, mais ça me revient là, tandis que vous dites « je veux être à tel endroit, à tel moment » et c'est possible que ce soit une femme qui prononce cette phrase et qu'il le fasse, parce que les deux moments où d'un seul coup ce projet non pas tremble mais est plus fragile, c'est des moments où vous vous sentez mise en danger dans votre corps vis-à-vis d'hommes, et de chiens, mais aussi d'hommes. Et je me suis dit, ah, c'est pas rien en fait, parce que cette femme qui s'octroie la plus grande liberté, à savoir une liberté dont sont empêchées beaucoup de femmes, circuler, n'importe quelle heure du jour, de la nuit, n'importe quel endroit, eh ben, elle est rappelée à ça quand même.
Vous êtes une lectrice très très fine, donc je me permettrai de ne pas faire de commentaires. Non, je peux pas commenter quelque chose d'aussi fin. Je crois que ce... Voilà, cette remarque touche à quelque chose qui fait partie aussi des non-dits du livre et des non-dits importants de ce livre. Au-delà de ça, pour ce que je peux dire, j'ai repensé aussi, en écoutant la très belle chanson qu'on vient d'entendre, que quand je parle des non-dits et du mystère, c'est aussi parce que je crois qu'il faut faire une distinction entre ce qui est partageable et ce qui ne l'est pas. Il y a des choses qui sont des sources d'inspiration et on peut tout à fait les utiliser quand on écrit. D'autres choses qui sont des parts d'intimité qui finalement ne regardent que nous et qui n'ont rien à voir avec le lecteur. Et à un moment donné, un livre, c'est un texte dans lequel le lecteur doit trouver sa place. Et donc, dans ce dosage entre ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas, je pense qu'il y a aussi ce qui fait qu'un lecteur trouve sa place dans un livre.
Et que certainement, c'est aussi parce que cela m'a parlé.
Voilà, exactement, exactement.
Et je me suis dit, dans quelle mesure est-ce que le mouvement dont on parlait tout à l'heure a été aussi un enjeu de langue et d'écriture pour vous, Valérie Zenati, c'est-à-dire trouver comment ce texte allait avancer. Parce qu'il n'est pas écrit que comme ça. Il n'est pas écrit qu'avec des très longues et vastes phrases. Parfois, il y a des toute petite phrase et tout petit paragraphe.
Oui, je me méfie beaucoup des systèmes et enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, parce que je me méfie aussi des gens qui pensent que la littérature doit être ceci ou cela. Ça peut tout être. En ce qui me concerne, tout comme en musique, je crois vraiment qu'il y a des mouvements lents, des mouvements brefs, et j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une harmonie dans cette musique-là, même si les phrases sont différentes les unes des autres dans leur longueur. Il y a des moments où je sens, et c'est vrai que c'est peut-être lorsque le mouvement physique est là, où je sens que la phrase, que ma phrase cherche à saisir tout ce que peut contenir un mouvement. Qu'est-ce qui se passe quand moi, je pose le pied à Tchernovitz, sur la neige de Tchernovitz? Il se passe tellement de choses. Et donc là, oui, ça peut tenir en trois mots, mais je sais qu'à ce moment-là, la vérité de ce mouvement tient plus en une phrase qui essaie de saisir ce qu'il y a eu avant et l'état de surprise, là aussi, et d'étonnement dans lequel je me trouve.
Et du coup, il faut parler de tout. Les mots qui arrivent en italique dans ce texte-là.
Oui.
Parce que on parlait au tout début de l'enchevêtrement des voix, l'enchevêtrement des langues. Là, il y a même l'enchevêtrement de langues qui passent par des caractères différents.
Oui, et puis il y a quelques phrases en hébreu qui sont venues là aussi de manière très naturelle à moi. Et après coup, j'ai pensé, bien entendu, je pouvais pas écrire un livre avec la voix d'Aaron Appelfeld en moi, sans à un moment donné mettre les lettres carrées, puisque c'est un alphabet qu'on appelle l'alphabet carré, et les lettres carrées. Et la présence de ces lettres, de ces quelques phrases en hébreu dans le livre, m'a aussi soutenue, c'était comme des points d'appui. Et l'italique s'est imposé comme la voix d'Aaron que j'entendais en moi, et qui se tissait parfois dans une même phrase, c'est-à-dire dans les phrases que j'entendais avant de les écrire, puisque c'est ainsi que ça a lieu. Il y avait à certains moments la voix d'Aaron et puis la mienne qui reprenait.
En 1946,
j'ai immigré au pays. J'avais 13 ans et demi. Sans éducation, sans parents, sans langue. J'avais tant de langues, mais tout ensemble ne suffisait pas à communiquer. Nous étions comme des bègues, parlant la langue du corps et non de la bouche. Chacun essayait de s'exprimer avec ce qu'il avait. Ce fut un gros effort de faire entrer une langue articulée différemment des autres langues que je connaissais. Elle sonnait comme des ordres. Aller, dormir, ranger. Elle sonnait comme surgie de la mer, des sables qui nous entouraient à Atlit. Ce n'est pas une langue qui jaillit de moi, mais c'est comme se remplir de gravier. J'ai beaucoup travaillé pour apprendre l'hébreu, comme pour creuser dans la montagne.
Alors, on la laisse entrer aussi avec cet extrait du film de Nourrit Aviv, la voix d'Aaron Appelfeld, d'une langue à l'autre, pour dire que c'est aussi un texte qui parle de ça. Vous le disiez tout à l'heure, Valérie Zenati, faire entrer les lettres carrées, mais faire aussi entrer un des enjeux de votre rencontre, à savoir la traduction. Oui. Et votre rapport singulier, qui parfois se rejoint, parfois s'éloigne, à cette langue de l'hébreu, il le dit, ce n'est pas sa langue maternelle, il la trouve pour parler à un moment de son enfance où il ne le pouvait plus, et ce n'est pas non plus votre langue maternelle, vous la trouvez pour d'autres raisons. Est-ce que c'est aussi le lieu de votre rencontre, cette langue de l'hébreu?
Oui, bien sûr, la langue, et sans doute, avant même la langue, c'est l'état de désorientation et de déstabilisation dans lequel nous a plongé le contact avec cette langue.
Il dit on était bègue, voilà. Lui pour lui.
Oui, en ce qui le concerne. Moi, je me suis retrouvée de nouveau, enfin, muette, je crois, là aussi, lorsque je suis partie vivre en Israël à l'âge de 13 ans et demi. Donc au même âge que celui d'Aaron, j'ai été dans cet état un peu mutique et de sidération. Avec le temps, j'ai pensé que toutes les personnes qui migrent ou qui émigrent un jour, ou qui changent de pays et de langue, se sont plongées dans cette désorientation-là, qui est celle certainement de l'enfant, donc de celui qui ne parle pas. Sauf que lorsqu'on est enfant, on est pris en charge dans son corps et dans ses besoins vitaux, et ça permet voilà, l'apprentissage. Lorsqu'on est plus âgé, lorsqu'on a 13 ans, on n'est pas pris en charge de la même manière, quand on est encore plus âgé non plus. Et je suis très touchée parce que cet extrait précisément que vous venez de diffuser, moi je l'ai travaillé avec une classe en Seine-Saint-Denis il y a quelques années dans le cadre d'un atelier que j'avais animé, et où il y avait beaucoup de primo-arrivants, comme on dit, donc beaucoup d'enfants qui venaient de Tchétchénie, du Bangladesh, du Mali, du Maroc. Et j'avais dit à l'enseignante que je voulais travailler sur un texte d'Aaron Appelfeld, et elle m'avait dit, mais tu n'y penses pas, ils sont en quatrième, ils savent à peine lire vraiment. Et je lui avais dit, non, je pense que c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et j'avais diffusé cet extrait, et ils avaient été bouleversés, et ils se sentaient tous tellement reliés à ce qu'ils disaient. Et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure aussi, on n'a pas besoin de confier son intimité pour être relié aux autres, mais de confier peut-être la part sensible dans laquelle chacun peut se retrouver. Ces jeunes gens qui avaient, là aussi j'y pense maintenant, exactement l'âge que j'avais, puisqu'ils étaient en quatrième, lorsque j'ai découvert l'hébreu, et l'âge qu'Aaron avait lorsqu'il a découvert l'hébreu, avaient compris chacun de ces mots avec, là aussi, leur corps. Et alors, bien sûr, ensuite, l'hébreu n'est pas n'importe quelle langue. Quand je dis ça, il ne s'agit pas du tout évidemment d'établir une hiérarchie entre les langues, mais c'est une langue archaïque qui plonge ses racines dans l'Antiquité et qui nous a fait découvrir à tous deux un monde extraordinaire de perception du temps notamment et des non-dits aussi, parce que c'est une langue de l'implicite, ne serait-ce que parce que on peut interpréter le texte biblique à l'infini, puisque, comme je le rappelle souvent, le texte n'a pas de voyelles mais que des consonnes, et chaque mot peut être lu de différentes manières.
Et c'est important de rappeler ça et d'aller profondément dans les mots avec Aaron Appelfeld qui dit c'était comme des cailloux. Et on sent que là encore on est ramené à quelque chose, je disais, de scientifique, mais en fait de physique. C'est peut-être ça parce qu'il y a beaucoup de corps dans ce texte-là, dans Le faisceau des vivants, Valérie Zenati, et qui dit que parler c'est aussi le corps, quoi. C'est aussi sentir le monde. Et bon. La langue hébreu n'est pas n'importe quelle langue, elle est aussi liée à une histoire, elle est aussi liée avec une tradition, avec parfois une religion, vous le rappeliez. Et dans ce texte, vous dites que Aaron Appelfeld rappelait souvent qu'écrire et qu'être face à la question d'être juif, c'est aussi accepter que d'autres soient face avec le mystère de ne l'être pas. Et que le fait d'avoir tous les deux rendez-vous avec l'hébreu, pour ce qui concerne votre littérature à l'un et à l'autre, à la traduction et à l'écriture, était d'être aussi en prise avec cette question-là.
Bien sûr, parce que effectivement, surtout et encore plus après le XXe siècle, c'est pas anodin d'être juif, dans le sens où on est forcément ramené à des questions essentielles qui ont à voir avec la vie, avec la mort, avec le temps, avec l'histoire, avec la haine, avec la langue aussi, puisque cette langue qui était plus ou moins murmurée, pas tout à fait morte pendant 2000 ans, tout à coup a été ressurgie et on a assisté à une résurrection de la langue. Et je crois qu'en effet, il y a un point de rencontre entre lui et moi qui a profondément à voir avec cette question d'être juif. Lui a été un enfant juif traqué. Moi, j'ai été une petite fille juive traumatisée par cette traque qui avait eu lieu 25 ans avant ma naissance. Et puis, à un moment donné, j'utilise le terme d'effroi. Il y avait voilà la joie de vivre et l'effroi d'être juif qu'on avait en partage. Mais ce n'est pas qu'un effroi. Et peut-être que le soulagement chez moi est venu le jour où je me suis interrogée sur l'étymologie du mot juif et où m'est apparu de manière limpide que c'était la même racine que le mot merci. Et donc, être juif, c'est avoir de la gratitude. Et c'est avoir de la gratitude pour l'existence et pour le fait d'être en vie. Et donc, ça ramenait le fait d'être juif du côté de la vie. Et évidemment, là aussi, c'est une position très ouverte et pas du tout exclusive. C'est une position qui dit que... Parce que dans les livres d'Aaron, il y avait beaucoup de personnages qui n'étaient pas juifs. Mais qui avaient un rapport aux juifs toujours plein de sens. Et donnant sens, même il y a un rapport d'altérité très très grand entre le juif et le non-juif, et là aussi on dépasse des catégories de religion, de foi, de communautarisme, qui est un mot absolument horrible, mais plus simplement d'expériences existentielles différentes et qui dans leur altérité produisent, vous parliez tout à l'heure de face à face, un mouvement extraordinaire de rencontre et de redécouverte du sens.
Et d'ailleurs, dans les choses que vous traduisez ou retraduisez au moment de sa mort, il y a des vidéos, et notamment des vidéos où on le voit en dialogue avec des jeunes gens, là aussi, qui le pas qu'il le pousse dans ses retranchements, mais qu'il l'interroge sur toutes ces questions-là, comme si, en écrivant ce texte, Valérie Zenati, c'était aussi dire que, bah, comme vous l'avez fait avec ses élèves en Seine-Saint-Denis ou à d'autres endroits, sa mort ou son passage sur Terre laisse ces questions ouvertes, qu'il faut continuer de les traiter, continuer de les présenter à des jeunes gens, continuer de faire vivre la littérature par la question.
Oui, exactement. Bien sûr, de continuer à transmettre de manière vivante parce que c'est surtout ne pas figer les événements dans un seul sens et une seule émotion et une seule interprétation.
Dans le texte, vous dites votre désir et votre crainte de vous adonner à la prochaine traduction, parce que vous décrivez à quel point les textes viennent toquer à votre porte pour être traduits, et que vous les choisissez. Alors le texte a été écrit à un moment donné. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état face à la prochaine traduction d'Aaron Appelfeld ?
Je l'ai tout juste commencé, j'ai un petit peu de mal, j'avoue, mais il va falloir que j'entre totalement dedans, puisque je dois remettre mon texte dans quelques mois. Je sais que ça va être une expérience que pour laquelle, pour l'instant, je n'ai pas vraiment peut-être les outils pour analyser cela, mais je pense qu'il y a un moment où je vais être dans le texte, et pour moi la traduction c'est aussi un moment où je me laisse traverser par quelque chose qui me dépasse. Donc ça va venir.
Dans le faisceau des vivants, c'est le titre de ce texte qui est paru aux éditions de l'Olivier, puis on mettra le reste de votre bibliographie, celle de Aaron Appelfeld, sur le site de l'émission. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Est-ce vraiment l'automne qui prend fin aujourd'hui? Je voudrais que soudain cette mer s'épanche.
Au son ce soir, c'était Marie Le Peintre, à la réalisation Lise-Marie Barré. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr ou en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent. Un grand merci à Lou Quevauvillier, Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre et Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours, tous les soirs. Dans un instant, vous retrouvez le journal. Très belle soirée sur France Culture. À demain.
délecte de ce poison.